Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous.
La cantatrice américaine Jessie Norman s'est éteinte hier à l'âge de 74 ans. Soprano de légende, elle a quitté l'état de Géorgie pour conquérir le monde. Vous l'entendrez avec un retour sur sa carrière dans un instant. Nous irons ensuite en Hongrie après le rejet par le Parlement européen de son candidat à la Commission. Si le gouvernement Orban proteste, il propose tout de même un autre nom. Analyse à suivre. Et puis nous vous expliquerons en quoi consiste le nouveau règlement à l'Assemblée nationale. Il entre en vigueur aujourd'hui. Et il donne plus ou moins de temps de parole aux députés de l'opposition. Elle était l'une des plus grandes figures de l'art lyrique. La cantatrice Jessie Norman est morte hier à New York à l'âge de 74 ans. Immense soprano, elle était notamment connue en France pour son interprétation de la Marseillaise lors du bicentenaire de la Révolution en 89. Jessie Norman, c'est aussi un destin américain. Née dans le sud des États-Unis, elle avait commencé sa carrière en Europe avant que son talent soit enfin reconnu chez elle, en Amérique. Retour donc sur sa carrière avec Grégory Phillips.
Comme ici au Carnegie Hall au début des années 90, Jessie Norman avait commencé par chanter du gospel dès l'âge de 4 ans dans la petite église d'Augusta, Géorgie, que fréquente alors sa famille. L'enfant est né en 1945 dans un sud encore ségrégationniste. Ses parents militent pour les droits des Noirs et ils l'envoient étudier le chant à Washington. Elle n'a que 16 ans. Puis 7 ans plus tard, elle part pour l'Europe, premier contrat à l'Opéra de Berlin, puis Paris, la Scala de Milan, les plus grands festivals. Il faudra attendre le début des années 80 pour que Jessie Norman revienne triompher aux États-Unis. Elle fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York en 1983, dans les Troyens de Berlioz. En 85, elle, la démocrate, chante pour la seconde investiture de Ronald Reagan. Puis la cantatrice enchaîne les galas et les récompenses, le Kennedy Center, l'Honneur. Elle reçoit 4 Grammy Awards et la médaille nationale des arts des mains de Barack Obama en 2009.
Jessie Norman.
En 2014, la cantatrice avait publié ses mémoires « Tiens-toi droite et chante » dans lesquelles elle racontait le racisme auquel elle avait été confrontée. Une école d'art lyrique porte désormais le nom de Jessie Norman à Augusta, là où tout a commencé.
Jessie Norman dans la Valkyrie de Wagner, c'était en 1989 au Metropolitan Opera de New York. Sous la menace d'une procédure de destitution, après avoir demandé des investigations ukrainiennes sur Joe Biden, Donald Trump fait monter la surenchère verbale. Il a même suggéré hier de faire arrêter un élu démocrate pour trahison. Il se voyait déjà commissaire européen et leur audition devait avoir lieu aujourd'hui, mais elle a été annulée. Hier, les candidats roumains et hongrois ont été rejetés par la commission des affaires juridiques du Parlement européen pour cause de conflit d'intérêts. La candidate désignée par le gouvernement roumain devait s'occuper des transports. Celui choisi par la Hongrie, Laszlo Trocsányi, avait été proposé pour être commissaire à l'élargissement. Selon Budapest, son éviction est un lynchage politique, Florence Labruyère.
C'est un complot de Bruxelles. C'est ainsi que le gouvernement hongrois explique l'échec de son candidat, Laszlo Trocsányi. Si ce dernier a été recalé, c'est à cause des libéraux de gauche qui dominent les institutions européennes, a affirmé le journal de la télévision publique hongroise, totalement contrôlé par le gouvernement. Les libéraux veulent ouvrir l'Europe aux étrangers et ils ont puni le candidat hongrois parce qu'il a défendu la politique anti-migrants de Viktor Orban. Pas un mot sur les véritables raisons du veto des eurodéputés. Ces derniers soupçonnent Laszlo Trocsányi de conflit d'intérêts. Le cabinet d'avocats qu'il dirige a conseillé le ministère hongrois de la Justice au moment où il était ministre. De plus, Trocsányi a facilité le transfert vers Moscou de 2 citoyens russes, des trafiquants d'armes, aux grandes dames de Washington qui souhaitaient leur extradition vers les États-Unis où les trafiquants sont recherchés. Enfin, si les eurodéputés ont brandi un carton rouge, c'est aussi parce que, en tant que ministre de la Justice, Trocsányi est à l'origine de plusieurs lois controversées. L'une a mis les ONG sous contrôle, l'autre a permis de chasser de Hongrie une institution américaine, l'Université d'Europe centrale. Le veto des eurodéputés est assurément un camouflet pour Viktor Orban. Mais ce dernier a jugé plus sage de proposer un autre candidat, l'ancien ambassadeur hongrois à Bruxelles. Un choix plus consensuel qui montre que Viktor Orban tient avant tout au poste de commissaire à l'élargissement.
La concurrence aura eu raison d'elle. La compagnie française XL Airways annule tous ses vols. L'entreprise à bas coût attend en fait une décision de justice sur une éventuelle reprise ou sur une liquidation. Elle paye une mauvaise stratégie économique. C'est ce que souligne ce matin Loïc Tribault-Laspierre, délégué général au Centre d'études et de prospectives stratégiques. Il est spécialiste du secteur aérien.
XL Airways, c'est tout d'abord le fait d'une compagnie qui s'est développée avec une insuffisance, je dirais, biologique. En l'occurrence, une sous-capitalisation ne lui permettant pas de faire des investissements d'avenir, évoluer dans un univers hyper concurrentiel et surtout dans un contexte où le cours du kérosène ne cesse d'avoir des effets yo-yo. Puis après ça, des erreurs stratégiques et puis la mauvaise appréhension et compréhension d'un univers de plus en plus concurrentiel. Donc c'est la somme de ces ingrédients qui amène au fait que XL Airways aura les ailes pliées. On est au début d'une série noire pour l'aérien. Le secteur de l'aérien va connaître une forte déflation au niveau, je dirais, de ses compagnies. Alors, il y a toujours ce judicieux paradoxe de dire que le nombre de passagers augmente, mais la compétition est rude, il y a trop d'acteurs et des prix ont été bradés. Il y a quelques mois, Emirates avait des résultats qui étaient en berne, la grande compagnie. Donc, pourquoi voulez-vous que des toutes petites compagnies, qui se font d'ailleurs une guerre acharnée, puissent effectivement s'en sortir alors que des majeurs sont à la peine?
C'était Loïc Tribault-Laspierre, interrogé pour France Culture par Diane Berger. Voilà maintenant une bataille qui n'en finit pas entre Airbnb et la ville de Paris. La justice ne devrait finalement pas trancher aujourd'hui. Le 21 mai dernier, déjà le procès intenté par la mairie de Paris contre la plateforme de location, déjà ce procès avait été renvoyé à aujourd'hui. Mais la ville de Paris attend encore une décision de la justice européenne et elle pourrait donc demander le renvoi, Manon Vautier-Cholet.
Au cœur de cette bataille judiciaire qui dure depuis plusieurs mois, les plus de 1000 logements parisiens proposés à la location sur Airbnb et qui ne sont pas en règle avec la loi Elan selon la mairie de Paris. Depuis novembre 2018, la loi française limite les possibilités de louer un logement à Paris à 120 nuitées par an via Airbnb, soit 4 mois. Elle oblige aussi les loueurs à se déclarer en mairie avec le CE à un numéro d'enregistrement. Les procédures judiciaires se sont multipliées, dont Airbnb sort pour le moment vainqueur, mais la Cour de cassation a saisi la Cour de justice européenne pour statuer sur un point précis. Elle doit dire si la plateforme est un fournisseur de services ou si ça relève de la liberté de chaque citoyen de louer son bien. Et l'enjeu est de taille. Paris réclame plus de 12 millions d'euros d'amende à Airbnb. L'Europe doit dire si ces sanctions prévues par le droit français sont bien conformes au droit européen. On attend encore cette décision de justice, d'où la demande de renvoi formulée par la mairie de Paris que le tribunal devrait logiquement lui accorder.
La qualité de l'air n'est pas en cause, affirme Édouard Philippe qui s'est rendu hier soir à Rouen, 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. Le Premier ministre a voulu se montrer rassurant face à une population encore inquiète et exposée à la pollution. Pour les agriculteurs, le gouvernement garantit une indemnisation totale face aux produits jetés, touchés par l'incendie et par la fumée qui s'en est dégagée. Après une session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui se penchait la semaine dernière sur le projet de loi bioéthique et la PMA pour toutes, votée par les députés, cette semaine, la nouvelle session ordinaire débute officiellement, une session synonyme de nouveauté pour les députés français, puisqu'un nouveau règlement entre en vigueur à l'Assemblée, Pierre Neveu.
Le premier grand changement va concerner la séance des questions au gouvernement. Désormais, il n'y en a plus qu'une, elle commence à 15h et se prolonge jusqu'à 17h. C'est donc le 2-en-1 qui est proposé aux députés. Et pour donner du rythme à cette séance de questions-réponses, le règlement définit un nouveau cadre. 26 questions, dont les deux tiers posées par les groupes d'opposition. Le groupe Les Républicains, par exemple, disposera d'un créneau de 7 questions hebdomadaires, contre 5 jusqu'à présent. Mais la grande nouveauté, c'est qu'un droit de réplique est désormais autorisé à l'auteur de la question. Les députés se réjouissent. Ils vont pouvoir répondre à un ministre, dénoncer ses effets de manche ou autres approximations. Cela nous promet de belles joutes oratoires improvisées, sachant que les membres du gouvernement pourront eux aussi répliquer aux députés, mais à condition que tout le monde respecte bien le timing. 2 minutes, questions et réponses comprises. Mais ce qui a fait débat lors de la discussion de cette modification du règlement au mois de mai, c'est la révision du temps de parole accordé aux députés lors de la discussion générale d'un texte de loi. Pour que les débats ne s'éternisent pas, les prises de parole ne seront désormais réservées qu'à un seul orateur par groupe. On redoute donc une prise de parole monolithique. Autre inquiétude, elle concerne les amendements identiques. Imaginons un amendement déposé par la France Insoumise et par les Républicains. Eh bien, il y aura le même texte, mais pas la même justification. D'où cette remarque d'un député de droite. On risque un affaiblissement du débat parlementaire.
Des centaines de personnes étaient réunies hier sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris. Un dernier hommage à Jacques Chirac qui a ensuite été inhumé dans l'après-midi au cimetière du Montparnasse à Paris toujours. Des pluies parfois orageuses vont traverser le pays ce mardi. D'abord sur un grand quart nord-ouest pour gagner ensuite les Alpes. Température plutôt homogène ce matin avec 17 degrés en moyenne au nord de la Loire. Entre 19 et 22 au sud.